comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Rougissement intempestif, peur panique de prendre la parole en public, bégaiement, mains qui tremblent ou se tordent, sueur froide ou encore incapacité à dire non. La timidité est souvent vécue comme un handicap. Comment parvenir à s'affirmer lorsque l'on rêverait de pouvoir disparaître sous terre dès que les projecteurs sont braqués sur nous? Comment surmonter cette difficulté à aller vers l'autre? Timide, est-ce que ça se soigne? On va tenter de répondre à ces questions avec, en duplex de Radio France à Lyon, notre invité, docteur Frédéric Fanget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute, spécialisé dans le traitement des troubles anxieux, des problèmes d'estime de soi et de couple. Dans 20 minutes, nous irons au Burkina Faso retrouver Haruna Ouédraogo, chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou et présidente de la Société Burkinabé de Santé Mentale. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur la prévention des cancers liés au papillomavirus humain, le HPV, prévention qui passe par la vaccination des adolescents, filles et garçons. Dans ce domaine, la France a du retard. Nous en parlerons avec le docteur Olivier Jourdain, gynécologue obstétricien à la clinique Jean Villard à Bordeaux. Pour poser des questions ou témoigner sur la timidité, un seul numéro, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Frédéric Fanget, d'abord, quelle définition pourriez-vous nous donner de la timidité?
Les gens timides craignent l'opinion des autres et ils manquent de confiance en eux. C'est-à-dire que, à cause de ce manque de confiance en eux, ils vont avoir une mauvaise image d'eux-mêmes, ils vont douter d'eux, un doute excessif, et du coup, ils vont craindre que les autres s'aperçoivent de leur faible valeur, du moins de ce qu'ils pensent être une faible valeur, parce que je vais très vite introduire l'idée que c'est pas parce qu'on se croit nul qu'on est nul. Il y a une différence entre la croyance et la réalité, heureusement.
Mais est-ce que c'est un défaut ou un trait de caractère?
Alors, on peut peut-être faire la nuance entre quelques mots qui sont connexes, très proches, mais différents. Il y a le mot introverti, il y a le mot timide, et il y a le mot anxiété sociale. Donc, pour répondre à votre question de caractère, l'introverti est un tempérament, est un trait de caractère, l'introversion. Hein. D'ailleurs, on décrit dans les classifications psy des axes entre introversion et extraversion. Bon, là, on est au niveau du tempérament. La timidité, c'est encore un petit peu aussi un certain trait de tempérament, mais il y a des différences, on en parlera certainement tout à l'heure entre les deux, dans les manifestations. Et l'anxiété sociale, on a des traits héréditaire, où là, on est vraiment dans la maladie, dans le trouble qu'il faut soigner, mais il n'y a pas que des traits héréditaires, on aura certainement l'occasion d'en reparler aussi.
Alors j'ai cité tout à l'heure quels sont, quelques symptômes de la timidité, de ce qu'on appelle la timidité, mais chez vous, chez vos patients plus exactement, quels sont les symptômes les plus fréquents de la timidité?
Alors, dans les symptômes les plus fréquents, il y a des symptômes comportementaux, mais encore une fois, je parle de l'anxiété sociale, c'est-à-dire, disons, les timides maladifs, pour être simple, ils sont inhibés, ils vont pas vers les gens, ce qu'on appelle des évitements. Alors, ça va se traduire de plein de sortes différentes. Au niveau professionnel, ils vont choisir des postes de travail où ils sont pas exposés au regard de l'autre. Même s'ils en ont les compétences, je peux vous citer l'exemple d'un banquier qui a refusé de monter en grade parce qu'il aurait eu à présenter ses résultats devant des réunions d'équipe et surtout devant ses chefs. Et ça, pour lui, c'était pas possible. Tout le monde se demandait pourquoi il acceptait pas cette promotion. C'était quelqu'un de très compétent. Au niveau de votre vie privée, par exemple, vous n'allez pas oser vous déclarer dans une relation amoureuse. Et dans la première étude que j'ai faite sur l'anxiété sociale, il y a quelques années maintenant, j'avais noté un taux de célibat deux fois supérieure à la normale par rapport à l'âge de mes patients. Vous voyez, donc vous avez des conséquences sur la vie professionnelle, sur la vie privée qui sont extrêmement importantes.
Et quand on a du mal à s'affirmer, par exemple, dans son milieu professionnel, est-ce que c'est de la timidité ou est-ce que c'est autre chose ?
Alors c'est ce qu'on appelle un manque d'affirmation de soi. Alors vous me direz, la confusion est possible et je comprends votre question, vu que les timides manquent souvent d'affirmation de soi. Mais le manque d'affirmation de soi, c'est ne pas exprimer mes besoins et laisser les autres prendre leur place à la place de la mienne. Donc effectivement, on ne sait pas dire non, on ne sait pas demander des choses, on ne sait pas formuler une critique calme, on ne sait pas répondre, on est très vite déstabilisé par une critique parce qu'on manque de confiance en nous, etc., etc.
Alors à partir de quand, pour un adulte, on parlera peut-être des enfants tout à l'heure, la timidité est-elle considérée comme un handicap dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse ? Est-ce qu'il y a un seuil que vous pouvez diagnostiquer ?
Oui, écoutez, je peux répondre un peu aux deux questions parce que en fait, il faut bien raisonner en psychologie sur vie entière. Donc, vous avez une certaine timidité ou disons ce qu'on appelait tout à l'heure un tempérament réservé, introverti qui est là dès l'enfance, d'accord ? Un certain nombre d'enfants vont être soumis à ce que j'appelle les traumatismes des cours d'école, dont on parle beaucoup maintenant avec le harcèlement scolaire, mais certains de ces enfants vont savoir se défendre, d'autres non. D'autres n'auront pas appris à se défendre, justement à s'affirmer avec les copains. Donc si l'enfant à la fois est soumis à des moqueries et en plus ne sait pas se défendre, là il a deux facteurs prédisposants très importants à développer plus tard une anxiété sociale pathologique. Mais heureusement pour lui, l'adolescence est une période qui permet de redistribuer toutes les cartes. C'est-à-dire que si, arrivé à l'adolescence, cet enfant a de la chance dans ses premières relations amoureuses, que ça se passe bien, ça va lui donner confiance en lui. S'il a de la chance quand à l'école on le fait passer au tableau, que ça se passe bien, qu'il panique pas, qu'en plus le prof est sympa, lui dit c'est bien ce que t'as fait, et que ça se reproduit comme ça, que des phénomènes vont bien se passer pour lui, il va sortir de la timidité et de l'anxiété sociale et il va évoluer vers un adulte qui n'aura aucun problème. En revanche, si à l'adolescence et au début de l'âge adulte, disons entre 12, 15 et 25 ans, les choses se passent mal, les gens se renferment dans le cercle des copains le samedi soir, ils sont dans leur coin, ils se taisent, ils n'osent pas prendre la parole, les dragues se passent mal, ils restent tout seuls, pareil, ils se développent pas, comme je disais tout à l'heure, au niveau professionnel à cause de ce manque de confiance en eux, à ce moment-là, ils vont petit à petit s'inscrire dans une vraie anxiété sociale et développer le trouble après 25 ans. Quand je vois des gens qui ont plus de 25-30 ans, je leur dis, écoutez, là, vous guérirez plus tout seul.
Alors, si je vous comprends bien, on est timide dès l'enfance. La timidité ne survient pas un beau jour ou est-ce qu'il peut y avoir un élément déclencheur justement de la timidité ?
Alors, vous savez, maintenant, bon, il y a une timidité, un petit peu une introversion, une timidité, bon, on fera la distinction entre les deux, de caractère, de l'enfance, qui vient s'aggraver par les traumatismes de cours d'école dont je viens de parler, mais j'ai oublié votre question.
La question, c'était, est-ce qu'on est timide dès qu'on est enfant ? Enfin, est-ce que la timidité se déclenche quand on est enfant ou est-ce qu'elle peut se déclencher un peu plus tard quand on est adulte, oui. Par exemple à cause d'un élément humiliant, par exemple, ou quelque chose comme
C'est plus rare. Alors là, vous voyez, je viens de faire ce qu'on appelle une imperfection, c'est très important, c'est-à-dire j'ai oublié votre question, et j'explique souvent à mes patients, parce qu'ils veulent être trop parfaits, hein. Et ça, il faudra qu'on en reparle, parce que dans l'anxiété sociale, la recherche de perfection, de performance, c'est quelque chose qui les met en difficulté. C'est beaucoup plus rare, madame, que ça apparaisse à l'âge adulte. Ça peut arriver, on peut perdre confiance en soi, mais en général, les gens qu'on voit en consultation pour ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux depuis l'enfance dans 90% des cas. En revanche, si vous êtes soumise à un traumatisme, prenons le cas d'une femme qui subit un viol, il est évident qu'elle peut complètement perdre confiance dans son corps, dans ses capacités sexuelles et même plus globalement perdre confiance en elle. Prenons quelqu'un qui subit une agression, un accident grave, il peut complètement perdre confiance en lui. C'est ce qu'on appelle le traumatisme. À ce moment-là, on est dans un autre problème avec d'autres traitements qui existent aussi, heureusement, ça se soigne, mais c'est le traitement du traumatisme psychologique, ce qu'on appelle le stress post-traumatique.
Alors vous parliez tout à l'heure des enfants, est-ce que c'est l'école qui fait découvrir aux parents que leur enfant est timide ?
Alors, le problème c'est que dans ceux qui subissent des moqueries, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a qui savent se défendre et il y en a qui ne savent pas se défendre. En termes clairs, il y en a qui savent s'affirmer et il y en a qui ne savent pas s'affirmer. Et où ont-ils appris à s'affirmer ? en regardant leurs parents. Donc on revient sur la prédisposition, parce que quand vous avez en face de vous un adulte qui souffre d'une timidité maladive, il a trois fois plus de risques d'avoir des parents eux-mêmes anxieux qu'un autre. Donc quand même, l'enfant, c'est pas par hasard s'il sait pas se défendre, c'est parce qu'il a pas des modèles parentaux qui, eux, se défendent dans leur propre vie.
Vous voulez imaginez dire qu'il y a un mimétisme entre l'enfant et ses
oui.
parents?
Oui, qu'on appelle l'apprentissage. Imaginez, un enfant peut tout apprendre, mais faut-il encore qu'on lui montre un modèle d'apprentissage? Imaginez que l'enfant naisse dans une famille où on reçoit jamais personne, où on ne sort jamais, où on dit « Oh mais non, les autres sont plus importants que nous, les autres sont mieux que nous, nous on va rester dans notre petit coin, tu s'en es des petites gens, et puis si jamais on te fait des remarques, hein, tais-toi », parce que c'est ce qu'on appelle la psychologie de la soumission, qu'on va apprendre très tôt. Donc si cet enfant, il vise dans ce milieu-là, et puis que par hasard, il est renforcé à la maternelle, et qu'en plus, il a la malchance, dès les premières classes, de tomber sur un petit copain, une petite copine hyper affirmée qui va complètement l'écraser, ben le pauvre, il aura toutes les peines du monde à faire face aux moqueries dans les cours d'école, parce qu'il n'aura pas acquis les bases de l'affirmation de soi. Heureusement pour lui, l'affirmation de soi est un traitement qui se fait à tout âge, et quand il sera grand, on pourra le traiter.
Et alors, quelles sont les manifestations physiques de cette timidité de l'enfant dès la maternelle ?
Alors, c'est effroyable, vous savez, l'anxiété sociale, c'est une maladie qui est effroyable. Alors, ils subissent un sentiment de honte, une émotion de honte qui est absolument énorme. Donc, vous avez deux phénomènes en termes d'émotion. Vous avez la honte et l'angoisse. Ils ont une angoisse paralysante. Et alors, du coup, vous savez que maintenant, on connaît bien les connexions entre le cerveau et le corps. Hein, tout ça est bien établi par les neurosciences modernes. Du coup, ça va se manifester par des sécrétions adrénergiques majeures. Ils vont être paralysés de peur. On voit ces enfants qui sont ce qu'on appelle en freezing, c'est-à-dire congelés sur place lorsqu'ils sont agressés dans la cour de l'école. Ils sont incapables de réaction. D'ailleurs, on peut souvent profiter d'eux, voire abuser d'eux à cause de cette incapacité de réaction. Ils vont vivre ce qu'on vit nous parfois, hein, quand on est paralysé par la peur, qu'on a une agression par exemple, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque, un sentiment de chaud-froid, des muscles qui vont se contracter. Enfin, c'est une véritable paralysie psychologique, si vous voulez.
Docteur Vanget, on va prendre des questions des auditeurs. On a beaucoup de questions au standard. Thierno, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Conakry en Guinée. Thierno, on vous écoute.
D'accord. Merci, docteur. Il a déjà répondu à beaucoup de mes questions, mais je vais revenir là-dessus. Moi, personnellement, je suis timide. Je me rends compte que j'ai souvent du mal à aller vers les autres, à créer des relations. J'avoue que quand les relations sont créées, je peux les entretenir, mais je suis toujours réservé à se demander qu'est-ce qu'il pense de moi en allant vers lui. Je calcule trop avant de faire aller vers les autres. Mais dans ma vie professionnelle, quand je travaille, je suis réservé. Quand j'ai un nouveau collègue, par exemple, je suis réservé, mais j'ai eu affaire de réunion. Au début, j'avais peur, mais une fois que je me lance, et puis ça va, le niveau est là, mais j'ai toujours des problèmes, parfois je tremble en prenant la parole, mais une fois que j'ai la parole, et puis ça va. Deuxièmement, j'ai ma femme aujourd'hui qui est aussi plus timide que moi. À la maison, on n'a presque pas de visiteurs, elle ne crée pas de relations, le voisinage, je me suis plaint auprès d'elle, il faut aller vers les autres. Sauf que elle me renvoie à la question, pourquoi à ton tour tu ne vas pas vers les autres? Donc ceci dit, ma fille qui a 4 ans maintenant, elle fait la maternelle. J'ai reçu ses résultats tout dernièrement. On me dit sur ses résultats qu'elle est bien, mais timide. Voyant ça, je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire sur moi-même en tant que père de famille, sur ma femme, et au-delà de ça, pour ne pas que notre fille qui est à bas âge ne continue à vivre là-dessus. Parce que moi, je sais que ça m'a impacté sur mon parcours scolaire. Il y a des questions que je pouvais répondre au tableau. Je vois, je sais la réponse, mais ma timidité m'empêchait de m'affirmer. Donc c'est quand on fait les évaluations que j'avais des bonnes notes. Mais sur les notes de cours, j'avais carrément rien.
Alors docteur Fanget, donc oui, c'est ce dont on parlait à l'instant, les enfants timides qui ont des parents timides. C'est un petit peu ça le problème de Thierno et de son épouse et de leur petite fille de 4 ans. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Thierno?
Oui, il y a deux choses importantes. Alors la première, ce que vous venez de dire, le conseil, c'est de prendre de la distance par rapport à sa timidité dans le discours qu'il a envers son enfant. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « je suis timide ». Il faut dire à son enfant « je souffre d'une timidité excessive, c'est un problème que j'ai, ça n'est pas moi, je ne suis pas qu'un timide. Et tu vois, je te demande de ne pas m'imiter, de ne pas te comporter comme moi, parce que ce problème, c'est un peu comme une maladie, tu vois, comme si j'avais un diabète ou une hypertension artérielle. Ce problème m'a créé des soucis, et du coup, je te conseille de ne pas être comme ton papa sur ce point. » Voilà. C'est-à-dire que l'adulte, d'ailleurs ça, ce que je dis, c'est vrai pour tous les troubles psychiques, tous les troubles anxieux, quand on voit on a beaucoup de femmes qui viennent consulter pour pas transmettre l'anxiété à leur enfant, par exemple des femmes qui ont des TOC, vous savez, des obsessions, on leur dit la même chose. Expliquez que vous n'êtes pas un TOC, vous êtes une personne atteinte d'un trouble anxieux, d'un trouble obsessionnel compulsif. Par contre, Tierno a dit une autre chose qui me paraît importante aussi à soulever, là, quand il expliquait bien qu'il a des difficultés pour entamer les relations, les nouvelles relations, les inconnus, et une fois qu'il y est, ça va mieux. Et il a dit cette phrase que j'entends souvent, qui est « je calcule trop avant ». Alors, je vais m'arrêter sur cette phrase parce qu'elle décrit parfaitement bien le mécanisme de l'anxiété sociale. Qu'est-ce que ça veut dire « je calcule trop avant », avant d'aller vers l'autre ? Ça veut dire qu'on est envahi par ce que nous, les spécialistes, on appelle des cognitions, ça veut dire des pensées négatives, avant d'aller vers l'autre. Alors, les pensées négatives que je pourrais avoir avant d'aller vers un inconnu, si j'étais timide, ça serait d'une part des pensées qui vont porter sur moi, des doutes sur moi, mais je ne suis pas très compétent, je ne suis pas performant, je n'ai rien d'attirant, pourquoi j'irais vers l'autre, voyez ? Et puis, on va avoir des doutes sur la réaction de l'autre, c'est-à-dire si je vais vers l'autre, est-ce qu'il va pas m'exclure, est-ce qu'il va pas me rejeter, en quoi je l'intéresserai, est-ce qu'il va pas me trouver con, etc. Et ça, c'est important de dépister que cette maladie, c'est pas uniquement des signes physiques, on en a parlé tout à l'heure, et des signes émotionnels, c'est aussi ce qu'on appelle des signes cognitifs, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à dépister ces fameuses pensées négatives qu'ils ont dans la tête avant et à les contredire par eux-mêmes. C'est la base de ce que je développe dans mon livre « Je me libère » où c'est « Je me libère de ma critique intérieure, de ma pollution mentale » où sans arrêt on se tyrannise nous-mêmes avec nos doutes. Eh bien, si on n'arrive pas à répondre nous-mêmes à ça, il faut se faire aider par notre entourage bienveillant. Choisir des personnes qui nous ont choisis, des amis, des personnes avec qui on vit, leur demander de nous dire nos qualités, de nous dire en quoi elles aiment, y compris notre côté introverti ou timide, parce qu'attention, ça n'est pas un défaut, ça peut être une qualité, c'est des gens qui ont le sens de l'écoute, c'est des gens, vous voyez ? Donc il faut parler comme ça à votre entourage timide, parce que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que c'est pas uniquement aux timides eux-mêmes à se prendre en charge, c'est à leur entourage. Leur entourage peut beaucoup les aider.
Tierno, est-ce que vous êtes satisfait ?
Oui, je voulais revenir sur la question de ma fille.
Oui.
Je n'ai jamais parlé avec ma fille que des questions de timidité. J'étais même étonné que ces résultats là reviennent. Est-ce que c'est pas sur nos comportements?
Quel âge a-t-elle, votre fille?
Elle a 4 ans.
Elle a 4 ans, d'accord. C'est peut-être un peu tôt.
Est-ce que c'est pas sur nos comportements? Elle est en train de calquer son comportement à elle, sans pouvoir parler. Elle nous voit réservés. À son tour, elle commence à être réservée.
Alors vous pouvez intervenir sur ces relations à l'école par exemple, en demandant ou en invitant des copains ou des copines chez vous et en favorisant les relations qui vont l'aider à se développer. Il y a deux types de relations, il y a ce qu'on appelle les relations possessives et les relations libératrices. Si elle se retrouve entourée de petits garçons, de petites filles qui la dominent et qui la soumettent, ça va mal se passer pour elle. Par contre, si vous vous débrouillez pour qu'elle soit entourée de gens qui la mettent en valeur, qui la respectent telle qu'elle est, là vous lui rendez un sacré service.
Merci.
Voilà, merci beaucoup Tierno de nous avoir appelé. Bonne journée à Conakry. On va prendre Eugène qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Eugène.
Bonjour madame.
Alors vous avez une question qui revient très très souvent chez nos auditeurs. Comment réussir un entretien d'embauche ? Expliquez-nous Eugène votre problème.
Oui, merci. Je suis de nature trop timide. J'ai beaucoup de difficultés à parler librement en public ou en groupe. Et j'ai du mal à converser surtout avec un supérieur ou simplement avec des filles. Alors, le problème qui me dérange aujourd'hui, c'est que je suis diplômé, j'ai une licence en sciences économiques et je suis à la recherche d'emploi. Chaque fois dans les entretiens d'embauche, j'ai réussi très bien au test écrit. Mais je tombe à l'oral. Parce que lorsque je me trouve devant les recruteurs, j'ai un cœur qui bat très, très fort. J'ai des idées éparpillées et j'ai même peur. Alors, ça me dérange beaucoup parce que c'est déjà 5 fois que j'ai échoué dans les tests oraux et c'est devenu comme un fardeau pour moi. C'est pourquoi je voudrais avoir les conseils du spécialiste. Peut-être il y a des techniques que je pourrais appliquer pour réussir les tests oraux.
Docteur Fongès, quelles sont les techniques pour ne pas perdre ses moyens à l'oral ?
Oui, merci Eugène de votre intervention. C'est un problème très fréquent qu'on a. Si vous étiez en face de moi, je pourrais vous proposer plein de choses. Alors déjà, une chose toute bête, mais à laquelle les gens ne pensent pas, quand c'est ponctuel comme ça, pour un entretien d'embauche, pour un examen oral, il y a un médicament qui s'appelle le propanolol, c'est un bêta-bloquant. Alors il faut vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. Si on a plus de 40 ans, il faut faire passer un petit électrocardiogramme. Et puis il y a l'asthme sévère aussi qui est une contre-indication. Mais sinon, c'est un comprimé qui n'agit pas sur le cerveau. Hein. Il ralentit les manifestations physiques de l'angoisse. C'est-à-dire qu'il va ralentir le cœur, il va en tout cas empêcher l'accélération du cœur, il va empêcher les vaisseaux de ce qu'on appelle la vasoconstriction, il va empêcher le rougissement, il va empêcher tout ça. Vous savez, on a des gens, par exemple des violonistes dans des orchestres qui prennent ça, des orateurs publics avant. Les cardiologues aux États-Unis avant leur congrès, ils prennent ça. Ils connaissent bien le produit parce qu'ils le donnent aux patients. Et ça, c'est un petit moyen très simple. Ça se prend une heure avant l'entretien oral. On fait une dose test avant pour bien vérifier sa sensibilité au produit. Et ça, un médecin traitant peut tout à fait prescrire ça. Donc ça, c'est un truc. Mais là, on agit évidemment de manière ponctuelle. La deuxième chose qu'on peut dire qui est très importante, moi je l'ai fait répéter en thérapie de groupe, les gens sur prise de parole en public, et j'ai remarqué qu'ils ont des blocages respiratoires. Alors ça, c'est énorme, ils savent pas respirer, ils bloquent leur respiration en parlant, et du coup, au bout d'un moment, si je bloque ma respiration, là, mes fins de phrases, elles vont très vite devenir catastrophiques. Donc, il y a une technique toute simple, alors on peut trouver ça sur Internet partout, qui s'appelle la respiration abdominale, le contrôle respiratoire par respiration abdominale, où on apprend simplement à souffler en rentrant le ventre et à souffler, à se vider de l'air plutôt que d'en rentrer et à le faire très doucement. Alors ça, c'est pas un petit truc, ça repose sur une explication qu'on a bien maintenant de l'anxiété et en particulier des attaques de panique, qui est l'hyperventilation. On a remarqué que les gens qui font des attaques de panique, c'est-à-dire des grandes crises d'angoisse très aiguës qui la plupart du temps les amènent à l'urgence, en fait, ils respirent beaucoup trop en prenant de l'air. D'ailleurs, dans le langage courant, on disait « va prendre un pôle d'air ». Pas du tout. Si vous êtes en crise d'angoisse, il faut faire l'inverse. Il faut vous allonger, il faut vous respirer lentement en rentrant votre ventre. Ça, c'est un deuxième outil qui est simple, facile à adapter et important. La troisième chose, évidemment, on monte en grade si tout ça n'arrive pas à résoudre le problème. On fait ce qu'on appelle, nous, des thérapies comportementales et cognitives, où on va tout simplement classer les prises de parole, et là je peux aussi donner le conseil, par difficulté. Parce que il y a par exemple des réunions d'équipe où c'est très dur de prendre la parole parce que vous avez toute votre direction. Et puis il y a des réunions avec 3 collègues où ça sera beaucoup plus facile, surtout si vous prenez des collègues bienveillants. Et donc on va amener les gens en thérapie à prendre la parole dans des situations de plus en plus difficiles, mais en commençant par les situations les plus faciles. Parce que si vous commencez par un oral très difficile ou une réunion très importante, vous risquez de faire une panique, d'avoir des tas de symptômes physiques dont on parlait tout à l'heure, et ça risque de mal se passer. Je peux encore donner encore un conseil, parce que souvent je suis amené à le donner à mes patients, qui est de choisir un poste de travail adapté. Alors, quand on a une licence dans un domaine, par exemple, il est très important, si on est introverti, timide, de prendre un poste de travail où on sera au moins au début pas trop exposé au regard et au jugement des autres. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de prendre un poste de commercial, par exemple, ou un poste où il faut prendre la parole devant les gens. Ça sera difficile pour eux. Et puis, ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils comprennent qu'il va falloir du temps pour s'habituer. C'est-à-dire que c'est pas interdit de prendre un poste où un jour il y aurait une prise de parole, par exemple si on veut être enseignant, mais il va falloir qu'ils s'entraînent et qu'ils s'habituent. Ça, il faut y penser parce que des fois, on voit les timides se mettre en difficulté tout seuls parce qu'ils veulent à tout prix. Vous savez, ils veulent un peu, ils entendent dire que la thérapie comportementale, c'est s'exposer à nos peurs, affronter nos peurs. Attention, hein, on n'affronte jamais nos peurs violemment. on apprivoise nos peurs en douceur. Je prends souvent l'image de vous voulez rentrer dans une mer qui est assez fraîche, et ben vous plongez pas dedans d'un coup. Vous commencez par mettre l'orteil, puis vous habituez, vous rendez compte que c'est froid, ensuite vous mettez le pied, ensuite jusqu'au genou. C'est ça la thérapie de la timidité. C'est pas je dois tout d'un coup faire des trucs incroyables, encore que ça peut marcher, on a l'expérience des gens qui tout d'un coup se mettent au karaoké, mais si la timidité est un peu prononcée, voire l'anxiété sociale, ça ne marchera pas.
Eugène, est-ce que Dr Fonget a répondu à votre question ?
Oui, enfin, merci.
Ben, entraînez-vous à bien respirer, donc par le ventre, et puis je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et si une envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je le.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
Tout oublier, Angèle et son grand frère Roméo Elvis sur RFI dans Priorité Santé. Comment vaincre la timidité? Nous sommes toujours en duplex de Lyon avec le docteur Frédéric Fonget, psychiatre et psychothérapeute. On va partir à présent pour le Burkina Faso. Professeur Haruna Ouedraogo, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou et président de la Société Burkinabé de Santé Mentale. Professeur, est-ce que la timidité est un motif fréquent de consultation?
Oui, bien sûr. C'est malheureusement un problème universel. Donc, on le trouve aussi dans notre environnement et donc qui fait l'objet effectivement de consultation avec cette précision que le plus souvent les gens viennent nous voir à un stade où il y a, en plus de cette timidité, des complications, d'autres problèmes en fait d'anxiété qui s'y ajoutent. Donc oui, je confirme que nous recevons aussi des patients pour cette problématique-là.
Vous voulez dire que les patients viennent vous voir quand cette timidité devient véritablement un handicap?
Exactement, parce que Comme le disait notre confrère, ça peut s'inscrire en fait dans une problématique un peu plus complexe, hein, où vous aviez des patients qui souffrent d'anxiété et qui donc vont venir au stade où il y a déjà soit un handicap au plan familial ou bien un handicap au plan professionnel avec une souffrance personnelle aussi qui est très très marquée, qui est très importante.
Alors quel conseil leur donnez-vous à ces patients qui viennent vous voir?
Alors en fait, nous essayons toujours de les aider à retrouver aussi en eux une certaine confiance, à retrouver des capacités aussi peut-être qu'ils ignorent, qu'ils possèdent en eux, qu'ils ignorent, apprendre aussi des techniques en fait d'affirmation de soi, de manière à pouvoir faire face à des situations anxiogènes qui ne sont pas toujours hors de leur portée, qui relèvent parfois en fait de leur bien, mais qui, en raison en fait de leur trouble, constituent pour eux un défi. Donc nous demandons toujours que, vous voyez, les patients puissent venir à un stade le plus tôt possible pour qu'on puisse avec eux envisager aussi une prise en charge adaptée.
Dans votre pays, le Burkina, comment est perçue une personne timide?
Alors, vous savez, dans notre contexte culturel, ça dépend. C'est à la fois un handicap et à la fois aussi
une qualité.
Quelque chose qui peut être, qui peut relever aussi d'une qualité. Ça peut être en fait la preuve d'une certaine sagesse l'individu, ça peut être perçu en fait comme quelqu'un de réfléchi, de très pondéré. Et dans certaines situations, ouais, c'est une qualité qui peut donc être socialement valorisée. Du fait que dans nos cultures, on peut, à l'enfance ou bien chez la femme, considérer que c'est une qualité qui est plutôt socialement valorisée. Alors malheureusement, cela peut, cela mène en fait va souvent de pair avec une souffrance personnelle de l'individu qui n'est pas en fait prise en compte aussi par l'entourage.
Professeur Ouédraogo, est-ce que vous avez un message à diffuser à la population?
Alors, ce que nous profitons toujours de ce genre d'émission-là pour demander aux personnes qui sont en fait dans ce genre de situation-là de pouvoir consulter un spécialiste le plus tôt possible. Dès lors qu'il y a en fait une souffrance personnelle qu'on vit au quotidien dans le cadre de ses relations, que ce soit au niveau familial ou bien au niveau professionnel, il est toujours important en fait de consulter. On dispose aujourd'hui de techniques, que ce soit sur le plan comportemental ou bien sur le plan pharmacologique, capables en fait d'aider ces personnes-là à sortir de ce handicap. Mais parfois, quand les gens viennent à un stade très très avancé, bien sûr, on peut toujours faire quelque chose, on fait toujours quelque chose, mais le traitement est nécessairement plus long et probablement aussi le résultat peut prendre du temps à se faire sentir. Donc il faut que les personnes qui souffrent, n'est-ce pas, de cette timidité-là puissent recourir à un psychologue ou à un psychiatre pour exposer leurs problèmes.
Voilà, sans attendre. Merci beaucoup, professeur Haruna Ouédraogo, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à Ouagadougou.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
On va continuer à répondre aux questions de nos auditeurs, docteur Fonget, si vous le voulez bien. Sur
oui,
Facebook, Raphaël nous écrit de Mbujimaï. La timidité peut-elle avoir une influence négative sur l'intelligence d'une personne?
Ah, pas du tout. Au contraire. Alors là, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens introvertis, alors je veux pas faire de généralité non plus, attention, hein, mais les gens introvertis sont souvent, justement, puisqu'ils s'expriment moins vers les autres, ils sont plus un sens de l'écoute, ils ont moins de relations sociales aussi, ils aiment bien rester seuls. Donc, ils vont être plutôt avec des cerveaux penseurs, réfléchis, posés, vous voyez ce que je veux dire. Alors, après, maintenant, on a la théorie des intelligences multiples, hein. Il y a plein de formes d'intelligence. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est votre forme d'intelligence. Si vous êtes comme ça, il va falloir vous faire respecter comme ça, encore une fois, et utiliser votre intelligence telle qu'elle est. Mais il y a une très bonne intelligence à ce niveau-là. Les personnalités extraverties vont, eux, avoir ce qu'on appelle un quotient relationnel, et non pas un quotient intellectuel, plus élevé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une grande capacité à entrer en relation aux autres. Donc eux, il faudra utiliser ces compétences-là, que ce soit dans leur métier ou dans leur vie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, heureusement que le monde est fait de gens différents, et je conseille souvent aux gens de s'entourer de gens différents d'eux. Par exemple, j'ai en tête une association d'un très grand cabinet d'avocats qui a eu une réussite exceptionnelle avec deux associés, l'un qui était vraiment l'introverti, réservé, mais qui connaissait le droit sur le bout du doigt, et l'autre qui était l'extraverti, qui était copain avec tout le monde dans la ville, qui ramenait la clientèle, comme on dit, et la complémentarité des deux était exceptionnelle. Un jour, malheureusement, ils se sont séparés, et ils ont tous les deux coulé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que
donc ils étaient complémentaires.
L'être humain est un être sociable, et c'est ça qu'il faut expliquer aux timides, c'est que l'autre peut nous apporter quelque chose. Mais attention de choisir des autres qui nous respectent tels qu'on est. Le grand conseil aux timides, c'est choisissez des conjoints, des collaborateurs, des amis qui vous aiment, introvertis, qui vous aiment, timides, et qui vous demandent pas d'être différents. Moi, j'en ai marre d'entendre ces ressources humaines nous expliquer qu'il faut que les gens soient extravertis. C'est ridicule. Est-ce que vous pensez que Stephen Hawking, le grand chercheur en physique qui vient de décéder, le pauvre, c'était pas bien qu'il soit un peu introverti, qu'il réfléchisse à comment on allait aller sur la Lune ou sur Mars? Je veux dire, si vous êtes un grand chercheur, vous n'avez pas besoin d'être extraverti. Par contre, si vous êtes politicien ou commercial, vous avez besoin de faire passer des messages aux gens.
Docteur Fanget, on va rester en RDC avec Dieudonné qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour.
Alors on vous écoute.
Bonjour.
D'accord, merci pour la parole. Je pense que le docteur, l'écoutant, il a presque répondu à cette question.
Parce que vous avez une fille de 5 ans qui est très timide, hein, c'est ça, qui est très réservée.
Effectivement, oui, qui est très réservée, qui est introvertie. Même à l'école, des fois, elle a des problèmes avec sa maîtresse. Moi, je suis aussi enseignant, mais moi, quand je l'encadre à la maison, ça va un peu. Mais à l'école, avec sa maîtresse, elle a trop de problèmes. Selon sa maîtresse, la fille est timide, elle ne parle pas.
Alors quelle idée vous trotte dans la tête pour que la timidité de votre fille disparaisse? Je crois que le sens de votre question. Vous vouliez poser cette question au docteur Fanget.
Oui, c'est ça ma question. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour qu'elle quitte cet état-là? Je ne veux pas cette timidité-là, parce que moi ça ne m'arrange pas.
Et vous pensiez la faire participer à des groupes de la paroisse, hein, c'est ça?
Oui, effectivement, je l'ai amené à un groupe de chiro de la paroisse, mais il n'y a pas longtemps qu'elle a commencé. Je ne sais pas d'abord comment ça va aller. J'ai parlé avec les responsables du groupe, ils m'ont dit qu'ils vont essayer un peu de l'encadrer, qu'elle quitte cet état-là, mais comme j'ai eu l'occasion de poser la question au docteur, voilà pourquoi je vous appelle.
D'accord. Docteur Fanget, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, Dieudonné. Alors, j'en pense des choses. Je vais me situer un petit peu entre les deux extrêmes qui seraient à accepter qu'elle soit timide et ne rien faire et à vouloir à tout prix la faire sortir de sa timidité. Il va falloir qu'il l'accompagne en douceur, sa fille. Ce que je veux dire par là, bien sûr qu'il faut l'aider à s'affirmer. On peut faire des petits jeux de rôle. Moi, je me souviens très bien avoir fait un petit jeu de rôle avec ma propre fille. Je vais lui raconter l'histoire parce qu'elle avait subi une punition collective alors qu'elle était pour rien. Bon, je vais vite, hein. Et je me souviens que j'ai mis au bout de mes gros orteils des petites chaussures. Elle avait à peu près l'âge de celle de un peu plus grande pour jouer le rôle et aller voir la professeure en lui disant, vous savez, madame, je n'étais pas responsable, je n'ai pas à être puni, etc. Donc, on va aider l'enfant à s'affirmer. Mais attendez, c'est très difficile pour un enfant timide de s'affirmer. Donc, il faut surtout pas lui faire violence. Il faut l'aider à s'affirmer, mais il faut aussi bien vérifier son état anxieux chez l'enfant. Il faut bien vérifier qu'elle est pas mal au ventre, qu'elle refuse pas d'aller à l'école, etc. Parce que ça veut dire qu'elle a peur. Et si elle a trop peur, le fait de vouloir trop la faire sortir de la timidité risque de l'aggraver, c'est-à-dire qu'on risque de la mettre dans des situations impossibles. Donc il faut l'accompagner avec beaucoup de douceur, lui montrer que le papa et la maman montrent même comment ils s'affirment avec les gens de leur âge, qu'ils emmènent la petite fille, mais vous voyez, c'est tout en douceur que ça doit se faire pour éviter de créer des angoisses qui, dans la tête de l'enfant, pourraient rester marquées longtemps si jamais on les pousse trop fort. Et donc, il faut que le papa, il fasse aussi un travail d'acceptation de la timidité et qu'il écoute la réponse que je vous ai faite tout à l'heure entre timidité et intelligence et sur les qualités des timides et des introvertis. C'est des gens qui ont de grandes qualités à rester aussi comme ça. Il faut pas qu'ils passent au stade de l'anxiété sociale, ça on est bien d'accord. Mais le tempérament introverti n'est pas une maladie.
Voilà,
donc, c'est important aussi de l'accepter avec ce côté-là et d'en voir les bons côtés.
Merci Dieudonné de nous avoir appelé. Bonne journée à Lubumbashi. On va prendre au standard Raphaël qui nous appelle d'Abomey Calavi au Bénin. Bonjour Raphaël.
Bonjour madame.
Alors allez-y, on vous écoute.
Oui, comme je l'ai écrit, c'est que j'ai eu ce problème de timidité sur les bancs, mais sur les bancs, c'est que...
Sur les bancs d'école.
Nous étions dans une génération qui évoluait ensemble, et puis bon, surtout quand tu parles mal français, tout le monde se met à rire, donc on a peur de prendre la parole et de mal dire quelque chose pour se faire surnommer par ce qu'on a mal dit pendant tout le temps. Donc ça agit sur moi. Mais quand on a fini, bon, j'ai commencé par donner des cours dans des écoles, et puis bon, je me suis senti un peu soulagé. Mais à la dernière partie, c'est que je me sens toujours inférieur par rapport. Il y a le complexe d'infériorité qui a commencé par. Et le docteur l'a dit tout à l'heure. Il a dit qu'on se suppose plus faible que l'autre, ou bien on dit bon, comment telle personne va m'accepter quand je vais l'aborder. Bon, c'est le problème auquel moi je suis resté confronté ces derniers temps.
Voilà, comment Raphaël peut-il en finir avec ce complexe d'infériorité, docteur Fanget ?
Alors, en tout cas, avec la timidité et la prise de parole, il a réglé le problème, parce que moi, je trouve qu'il s'exprime très bien. Hein. Alors, reste derrière, et souvent, c'est ça, d'ailleurs. Les gens vont avoir des performances comportementales, ils vont arriver à s'affirmer, mais ils peuvent garder le problème de confiance en eux, ce qu'il appelle le complexe d'infériorité. Alors là, c'est toute une thérapie hein, pour cette histoire de confiance en soi. J'ai beaucoup écrit là-dessus, donc avec beaucoup de conseils, mais en deux mots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener, comme je le disais tout à l'heure, à critiquer sa propre voix intérieure, sa propre pollution mentale, qui le rabaisse sans arrêt, à pas se laisser faire. Pour critiquer cette voix, il peut le faire lui-même et comme je l'ai dit, il peut se faire entourer de gens qui l'aident. Et l'autre conseil qu'on peut donner, c'est de faire ce que j'appelle des bilans de vie. Alors quand on fait des bilans de vie, comme les gens se voient négativement, se voient inférieurs, ils considèrent que leur vie est une vie de merde, quoi, qu'ils n'ont rien fait de bien. Donc on va leur dire, vous allez mettre deux colonnes. Dans la colonne de gauche, vous avez fait tout ce que vous avez raté. Alors là, ils se régalent, ils se défoulent et je leur dis, vous allez bien au bout de la colonne. Hein. Surtout, vous passez pas à la colonne de droite tant que vous n'avez pas dit tous vos échecs. Et puis à la colonne de droite, vous allez mettre toutes vos réussites parce qu'ils ont complètement oublié. Les gens, par exemple, ils vont vous dire, j'ai raté ma licence. On va leur dire, bah, d'accord, oui, mais vous rendez pas compte, j'ai que des échecs. Bon, d'accord, mais si vous étiez en licence et que vous aviez réussi votre première année, puis que vous aviez réussi votre bac, puis que vous avez réussi votre BEPC, etc. Vous voyez ? Donc on va les amener à voir ça. Alors, souvent, alors là, il y a deux possibilités. Soit le problème, le complexe d'infériorité, est pas trop important et ça va suffire. Soit, et parce qu'ils vont trouver, ils vont... D'ailleurs, le professeur, tout à l'heure, le disait. Il disait, nous, notre rôle des psys, c'est de montrer aux gens leur capacité qu'ils ignorent. J'ai bien aimé sa phrase, parce que c'est exactement ça. On va amener les gens à voir le côté positif en eux qu'ils voient pas. Et puis, si ça suffit pas, c'est-à-dire que dans leur bilan de vie qu'ils vous rapportent, vous avez une colonne de gauche avec des échecs monstrueuses, avec 20 lignes, et puis une colonne de droite où il y a deux réussites qui se courent après, on va leur dire d'employer ce que j'appelle la technique du sondage. La technique du sondage, ça consiste à interviewer trois personnes qui nous aiment bien, qui nous respectent autour de nous, et à leur demander nos qualités, par écrit, en dehors de nous. Ils vont nous les rendre, et on va comparer avec celles qu'on avait mises. Nos qualités, nos défauts, enfin ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins en nous. Et on va se rendre compte qu'il y a des tas de choses que les autres aiment en nous, qu'on a comme qualité et qu'on voit pas, ou dont on parle pas, dont on prend pas conscience. Et puis on va se rendre compte qu'il y a des tas de défauts et d'échecs qu'on a mis dans notre liste, que les autres ne voient pas et qui gênent pas du tout les autres. Et du coup, on va reprendre après notre propre liste en la rééquilibrant comme ça, grâce à l'apport de ceux qui nous entourent. Là encore, profitez des gens bienveillants de votre entourage.
Voilà, j'espère que vous allez suivre ce conseil, Raphaël. Bonne journée à Abomey Calavi. Merci beaucoup, docteur Frédéric Fanget, d'avoir été notre invité et d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Et merci à nos confrères de Radio France à Lyon d'avoir permis ce duplex avec vous. Je rappelle, je renvoie nos auditeurs à votre livre « Oser la thérapie de la confiance en soi » chez Odile Jacob. Et puis également un autre livre chez Odile Jacob, « Affirmez-vous pour mieux vivre avec les autres ».
Priorité santé sur RFI.
Chaque année en France, 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont enregistrés et 1100 femmes en meurent. Des pays comme l'Australie, le Canada, la Grande-Bretagne ou la Norvège ont une bien meilleure couverture vaccinale contre le papillomavirus et du coup pourraient bien éliminer avant la France le cancer du col de l'utérus. Olivier Jourdain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Jean Villard à Bordeaux. On a eu un petit rendez-vous manqué lundi, donc on se rattrape. Alors, contrairement aux pays que je viens de citer, la France ne recommande le vaccin anti-HPV qu'aux filles de 11 à 14 ans avec rattrapage jusqu'à 19 ans. Pourquoi est-ce que le vaccin doit aussi être proposé aux garçons?
Alors, les données sur les garçons commencent à être maintenant bien connues. Il y a deux objectifs à la vaccination des garçons. Le premier est un objectif altruiste, c'est-à-dire que les garçons se vaccinent pour protéger leurs compagnes, leurs copines, leurs amis, leurs femmes. Et on a l'exemple de la rubéole, où on sait qu'on a pu éradiquer la rubéole congénitale en vaccinant aussi les garçons, ce qui a permis d'éviter que les filles, y compris celles non vaccinées, soient atteintes. Et puis, il y a aussi un objectif individuel, puisqu'on commence maintenant à mieux cerner les pathologies induites par l'HPV en dehors du col de l'utérus. Je pense alors chez la femme au vagin, à la vulve et à l'anus, mais aussi, et c'est plus récent, les connaissances sur les cancers ORL, en particulier l'oropharynx, dont probablement plus de la moitié sont dus à HPV.
Et les papillomavirus sont aussi responsables de cancers chez les hommes?
Oui, alors bien spécialement dans le domaine de l'ORL, hein, il y a les ORL sont très fréquents chez les hommes et on pense qu'en France il y a de l'ordre de 1300-1500 cancers ORL dus à HPV chez les hommes, un petit peu moins chez la femme, 600, ce qui fait à peu près 2000 à peu près, donc un petit peu moins que le cancer du col au total, mais ça fait quand même beaucoup de monde. C'est encore des données qui sont un petit peu sujettes à recherche parce que l'impact précis de l'HPV sur les cancers ORL n'est pas encore totalement clos en termes de recherche scientifique.
Et est-ce qu'on doit retarder l'âge limite de vaccination? En France, il est de 19 ans, en Australie de 26 ans pour les filles.
Alors, c'est toute la question du rattrapage. Quand on lance une campagne de vaccination, on sait que le vaccin HPV n'est efficace que chez des gens qui n'ont jamais été en contact avec la souche d'HPV pour lesquelles on les vaccine. Le risque de vacciner trop tard, c'est de faire des vaccinations inutiles, avec ce que ça entraîne en termes de coûts pour la société, etc. Mais à 26 ans, par exemple, on sait que seuls à peu près 2 ou 3% des individus, que ce soit les filles ou les garçons, ont déjà été en contact avec les 4 souches du vaccin quadrivalent. Ce qui veut dire qu'il y en a plus de 90% qui peuvent bénéficier de ce vaccin. Et dans l'idée de rattraper, puisque la vaccination HPV est quelque chose qui a un objectif sur le long terme, les pathologies, en particulier les cancers du col, c'est 10 à 15 ans. Donc on cherche à prévenir des cancers qui vont survenir 15 ans après, si vous voulez, l'infection HPV. L'idée de rattraper est intéressante, de manière à recruter le maximum de gens possible et de ne pas finalement laisser sur le côté de la route des gens qui pourraient quand même bénéficier du vaccin, même si c'est dans des proportions peut-être un petit peu inférieures.
Merci beaucoup, docteur Olivier Jourdain, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Jean Villard à Bordeaux. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Priorité santé touche à sa fin. Merci à Sétou Samaké et Juliette Brault qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée avec, pour la gestion des appels, Tiffany Menta. Lundi, vous retrouverez Caroline Paré à ce micro pour la première des 5 émissions spéciales enregistrées à Haïti et qui seront diffusées tout au long de la semaine prochaine. Thème de la première émission, la drépanocytose. En attendant, bon week-end et portez-vous bien. Vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Émissions.
C'est
été Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.